Chapitre 10. Et cela finit. 99 tissages. Moiraine avait trouvé l'étoile à 6 branches sur des galets ronds, parmi les dunes d'un désert où la chaleur, plus terrible que tout ce qu'elle avait connu, lui faisait tourner la tête et séchait la sueur sur sa peau avant même qu'elle ait pu vraiment se former. Elle la dénicha sous la neige, sur un flanc de montagne battu par des bourrasques glaciales, alors que la foudre tombait tout autour d'elle. Dans une cité aux immenses tours, au milieu d'une foule qui parlait un langage incompréhensible. Au cœur d'une forêt obscure. Dans un marécage aux eaux noires croupies. Dans un marais, au milieu de roseaux coupant comme des lames. Dans des fermes, au fin fond de plusieurs plaines, dans des bouches infâmes et de somptueux palais. Parfois, la jeune femme était habillée. Très souvent, ses vêtements se volatilisaient, quand elle avait la chance d'en avoir. Au fil de son errance, elle fut ligotée avec une corde, enchaînée, saucissonnée dans des positions ridicules qui mettaient ses articulations à la torture, suspendue par les poignets ou les chevilles. Elle affronta des serpents venimeux, des reptiles marins de 9 pieds de longueur aux crocs démesurés, des sangliers sauvages, des lions en chasse, des léopards affamés et des meutes de lynx fous furieux. Elle fut piquée par des frelons et des guêpes fouisseuses, mordue par des légions de fourmis et des essaims de thym, sans parler d'une kyrielle d'insectes qu'elle ne connaissait pas. Torche au poing, des villageois furieux voulurent la traîner sur un bûcher pour la purifier par les flammes. Des capes blanches, plus pragmatiques, manifestèrent l'intention de la pendre, tandis que des brigands en bande ou solitaires essayèrent de l'étriper ou de l'étrangler. Chaque fois, elle oublia sa mésaventure précédente et se demanda d'où elle tenait cette estafilade sur la joue, cette entaille sur le flanc ou ces 3 zébrures dans le dos qui évoquaient des traces de griffes. D'autres contusions et blessures, moins faciles à identifier, couvraient sa chair épuisée. Car le pire, c'était la fatigue. Vidée de son énergie, Moiraine doutait qu'avoir canalisé le pouvoir ait pu la mettre dans cet état-là. 99 tissages. Pourtant, si elle ne tenait plus debout, ça devait être à cause de ses blessures. Relevant l'ourlet de sa robe de laine très ordinaire, la jeune femme tituba jusqu'à une étoile à 6 branches, dessinée sur une dalle rouge, à côté d'une fontaine de marbre entourée de colonnes à cannelures. Tenant debout par miracle, Moiraine mobilisait tout ce qui lui restait d'énergie pour conserver le visage impassible de rigueur. Son corps n'était plus que douleur, non, elle n'était plus que douleur, âme comprise. Mais elle arrivait au bout de son calvaire. Un dernier tissage, et elle en aurait terminé. Avec quoi, elle n'était plus en état de le dire. Et elle pourrait partir en quête d'une Aes Sedai disposée à la soigner. Sinon, n'importe quelle guérisseuse ferait l'affaire. Le dernier tissage appartenait à la catégorie des productions inutiles. Si on le réussissait, celui-ci faisait apparaître dans l'air des taches de couleur brillante. En cas d'erreur, il ferait rougir la peau de Moiraine, douloureusement, comme un gros coup de soleil. Elle commença prudemment. À cet instant, son père sortit de derrière une colonne, juste devant elle. Vêtu d'une longue redingote démodée depuis au minimum une bonne année, il arborait du col jusqu'aux genoux les couleurs de la maison d'Amodred. Très grand pour un homme de Caerien, il frôlait les 6 pieds et restait impressionnant malgré ses cheveux grisonnants et ses épaules légèrement voûtées. Enfant, Moiraine l'avait toujours vu droit comme un i, sauf quand il se penchait pour la laisser sauter dans ses bras. Mais l'âge avait fini par le rattraper. Pour une raison qu'elle ne comprit pas, Moiraine eut le cœur serré en le voyant.
« Ma fille, »
dit-il, l'inquiétude creusant des rides au coin de ses yeux.
« Tu dois me suivre sans tarder. »«
C'est ta mère, mon enfant. »
Elle se meurt. Tu auras une chance de la revoir vivante en partant sur le champ.
Submergé par l'émotion, Moiraine aurait voulu éclater en sanglots et suivre son père comme il le lui demandait. Mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Le tissage s'acheva soudain dans une explosion de taches colorées qui tourbillonnèrent autour de l'accepté et de son père. Ce joyeux spectacle inspira une profonde amertume à Moiraine. Alors qu'elle allait demander où était sa mère, elle vit une autre étoile derrière son père, gravée sur le linteau de l'arche d'où il avait émergé. Un pas régulier, sans hésitation.
« Je t'aime, père, »
dit-elle d'un ton serein. Par la lumière, comment rester calme face à cela? Pourtant, elle devait y parvenir.
« Dis à maman que je l'aime de tout mon cœur. »
Dépassant son père, Moiraine approcha de l'étoile. Elle eut l'impression que le vieil homme l'appelait, qu'il la rattrapa même et la tira par la manche. Mais la concentration requise pour paraître calme et marcher dignement l'empêcha de comprendre ce qu'il disait. En guise de marche, elle titubait en réalité, mais sans jamais presser volontairement le pas ni traîner les pieds. Enfin, elle franchit l'arche, passant sous l'étoile, et se retrouva en train de tituber dans une grande salle circulaire blanche, si vivement éclairée qu'elle en fut éblouie. Des souvenirs lui revinrent, menaçant de lui couper les jambes. Incapable de maîtriser le flot d'informations qui déferlait en elle, la jeune femme fit encore 3 pas avant de s'immobiliser, incertaine. Elle se souvenait de tout à présent. Chaque tissage, chaque lieu où elle avait été maltraitée ou blessée. Tous ses faux pas et ses efforts frénétiques pour afficher un semblant de sérénité.
« C'est accompli !»
annonça Marianne en tapant très fort dans ses mains.
« Que personne ne parle jamais de ce qui s'est passé ici. Il nous revient de partager en silence cette expérience avec la femme qui l'a vécue. »
Elle tapa de nouveau dans ses mains, faisant osciller les franges bleues de son châle.
« Moiraine, dame Audred, tu passeras la prochaine nuit à prier et à méditer sur le fardeau qui pèsera sur tes épaules demain, lorsque tu auras reçu le châle. Tout est accompli. »
Marianne tapa une 3e fois dans ses mains, puis elle releva l'ourlet de sa robe et s'éloigna en direction de la sortie. Les autres sœurs, au contraire, vinrent entourer Moiraine, à l'exception d'Elaïda, nota la jeune femme. Resserrant les pans de son châle comme si elle avait froid, la sœur rouge quittait la pièce avec Marianne.
« Accepteras-tu la guérison, mon enfant ?»
demanda Anaya. D'une tête plus grande que Moiraine, Anaya avait un visage tellement passe-partout qu'on ne remarquait plus l'intemporelle jeunesse caractéristique des Aes Sedai. Malgré sa jolie robe bleue brodée, elle ressemblait plus à une fermière qu'à une initiée de la tour.
« Une question stupide, je le reconnais. Tu es moins amochée que certaines candidates, mais pas en très grande forme. J'ai réussi ?» Si Rougir revenait à perdre sa sérénité, personne n'obtiendrait jamais le châle.
Souriante, Anaya tira sur le sien avec une charmante coquetterie. Les sœurs avaient tout vu, naturellement. C'était indispensable pour l'évaluer, mais... se souvenant du beau jeune homme qui l'avait enlacé, alors qu'elle entamait le 43e tissage et embrassait fougueusement, Moiraine sentit qu'elle virait à l'écarlate. Les sœurs avaient assisté à cette scène.
« Anaya, tu devrais guérir cette gamine avant qu'elle s'écroule. »
dit Vérine. Petite, l'œil toujours un rien rêveur, Vérine était agréablement enveloppée, et son châle aux franges marron ne parvenait pas à dissimuler ses rondeurs. Moiraine aimait beaucoup Vérine. Ça ne l'empêcha pas de frissonner quand elle vit ce qu'elle lui tendait. Ses vêtements, ceinture comprise.
« Tu as raison, »
acquiesça Anaya. Prenant la tête de Moiraine entre ses mains, elle commença à canaliser le pouvoir. Ses blessures étant bien plus graves que celles infligées par Elaïda, la jeune femme eut l'impression, cette fois, d'être enchâssée vivante dans un bloc de glace. Quand cette torture cessa, cela dit, il ne restait plus un stigmate de son aventure. En revanche, la fatigue demeurait, peut-être encore plus accablante. La faim se manifestait aussi, impérieuse. Combien de temps avait duré l'épreuve? Malgré son sens inné de l'heure, Moiraine aurait été incapable de fournir une vague estimation. Tapotant sa ceinture, elle s'assura de la présence du carnet. Devant les sœurs, impossible de faire davantage. De plus, elle avait hâte d'être rhabillée. Mais elle devait d'abord obtenir la réponse à une question qui la minait. Son épreuve n'était pas seulement un scénario généré au hasard par le terrain gréal. Les offenses continuelles faites à sa pudeur montraient bien que la procédure était ciblée.
« La dernière scène était très cruelle, »
dit-elle, tout en enfilant sa robe. Elle s'interrompit, les bras en l'air, afin de jauger la réaction des sœurs.
« Cruelle ou non, il n'est pas convenable d'en parler. »
dit Anaya cassante.
« À aucun moment, et devant personne. »
Mais Yuan, une mince sœur jaune, jeta un coup d'œil gêné à la porte. Marianne n'avait pas participé directement à l'épreuve. Il s'agissait donc d'Elaïda. Ses efforts pour la faire échouer avaient dû dépasser largement ceux des autres sœurs. Sinon, Yuan n'aurait pas manifesté ainsi sa désapprobation. C'était bon à noter. Les 3 autres sœurs s'enfuirent de leur côté. Mais Vérine et Anaya accompagnèrent Moiraine jusqu'au rez-de-chaussée de la tour, en empruntant un chemin différent de l'allée. Lorsqu'elles l'eurent laissée seule, la jeune femme gagna le bureau où Xuan et elle avaient passé tant de jours à recopier des noms. Elle y trouva 2 secrétaires à l'air épuisé, des femmes qui parurent fort mécontentes qu'on les interrompe en les bombardant de questions sur une acceptée qu'elle ne connaissait pas. Une idée traversa l'esprit de Moiraine, mais elle n'osa pas y croire. Elle courut vers les quartiers des acceptées, et se fit réprimander 3 fois par des sœurs, car jusqu'au lendemain, elle resterait leur inférieure, où elle trouva sa chambre et celle de Xuan vides. Pas mal de sorties en vue du recensement se terminaient tôt, désormais. L'après-midi étant déjà bien entamé, Moiraine explora les autres chambres, et trouva 2 de ses amies. Assises devant la cheminée, Sheriam et Mirel se reposaient,
dans la chambre de cette dernière. Ici, le petit tapis avait des franges rouges élimées, et le nécessaire de toilette était bleu.
« Mais Réan est venue chercher Siwan il y a un petit moment !»
annonça Mirel, tout excitée.
« Pour l'épreuve !»« As-tu réussi ?»
demanda Shiryam.
« Oui, »
répondit Moiraine, le cœur serré lorsqu'elle vit changer le regard de ses... amis. Les deux acceptés se levèrent et manquèrent de lui faire une révérence. Un gouffre venait de s'ouvrir entre elles. Jusqu'au lendemain, elles resteraient une acceptée, mais c'en était fini de l'amitié, jusqu'à ce que les deux jeunes femmes obtiennent à leur tour le châle. Elles ne demandèrent pas à Moiraine de les laisser, mais n'insistèrent pas non plus pour qu'elles restent. Et lorsqu'elle déclara qu'elle allait dans sa chambre attendre le retour de Siwan, elles ne dissimulèrent pas leur soulagement. Une fois chez elle, Moiraine examina son petit carnet et ne trouva aucun indice laissant penser qu'on l'avait ouvert et feuilleté. À la Tour Blanche, ça ne voulait pas dire que personne ne l'avait lu. Mais comment quiconque aurait-il pu s'y intéresser sans savoir ce que les deux amis avaient fait? Pour ça, il aurait fallu que des enquêtrices de Tamra assistent à l'épreuve. Et ce n'était pas le cas, autant que Moiraine pouvait le savoir, bien entendu. Une servante ou une novice avait allumé du feu dans la cheminée et laissé un plateau sur la petite table. Relevant le carré de tissu blanc qui le recouvrait, Moiraine découvrit un véritable festin. Plusieurs piles de tranches de rôti de bœuf, des navets en sauce à la crème, de gros haricots blancs au fromage de chèvre et une salade de choux aux pignons de pin. Une miche de pain frais et un grand pichet d'infusion complétaient le menu. Tout étant très chaud, on venait probablement juste de passer. Quand elle s'y mettait, la Tour Blanche avait un art consommé du minutage. Un festin, peut-être, mais que Moiraine dévora entièrement, sans même laisser une miette de pain. Elle mourait d'envie de dormir, mais ce que voulait son corps ne conviendrait jamais à son esprit. Si Siwan échouait et survivait à ce désastre, face à lumière que ce soit le cas, elle reviendrait juste le temps qu'il lui faudrait pour faire ses bagages. Pas question de ne pas lui dire adieu, et donc interdiction de dormir. S'allongeant quand même, Moiraine s'empara d'un livre afin de garder les yeux ouverts. Des cœurs en flammes ne constituait peut-être pas une lecture convenable pour une novice, mais c'était son livre de chevet, et celui de Siwan. Après avoir passé un long moment à contempler la première page sans lire un mot, Moiraine se leva et fit quelques pas. Puis elle se rallongea, reprit le livre, et n'eut pas plus de succès. Siwan allait revenir, et elle ne serait pas chassée de la tour. Certes, mais il y avait tant de façons d'échouer, de se tromper, de... Non, Siwan réussirait. Le contraire serait trop injuste. Au bout du compte, elle était taillée pour faire une bien meilleure Aes Sedai que Moiraine. C'était évident. Tout au long de l'après-midi, la jeune femme entendit les acceptés revenir de mission, certaines en riant et d'autres en se lamentant. Mais le bruit ne durait jamais longtemps, comme si la nouvelle se répandait à la vitesse du vent. Moiraine avait subi l'épreuve. Elle en était sortie victorieuse et elle se reposait dans sa chambre. Même si elle devait recevoir le châle le lendemain, on ne pouvait plus se comporter n'importe comment en sa présence. L'heure du dîner sonna, puis fut dépassée. Malgré son festin, Moiraine avait encore un petit creux, mais elle ne se rendit pas au réfectoire. Parce qu'elle craignait de ne pas supporter le regard des autres, pour commencer, mais surtout de peur de rater le retour de Siwan. Elle bâillait sur son lit, tentant en vain de lire, lorsque Siwan entra dans la chambre, le visage de marbre.
« C'était aussi facile que tomber d'un bateau dans un banc de brochets argentés. Lorsque tout m'est revenu à la mémoire, j'ai failli m'évanouir. »
Siwan tapota la poche de ceinture où elle avait gardé son carnet.
« Mais on peut dire que ça ne va pas trop mal. »
Soudain rouge comme une pivoine, Siwan parvint quand même à sourire.
« Nous recevrons le châle ensemble, mon ami. »
Moiraine bondit sur ses pieds. Riant aux éclats, les deux amis dansèrent la gigue dans la minuscule pièce. Moiraine mourait d'envie de savoir comment s'était passée l'épreuve de sa compagne. Cette façon de s'empourprer, Siwan avait quelque chose d'intrigant. Mais l'expérience devait être partagée en silence et uniquement avec les femmes qui en avaient été témoins. Depuis quand Moiraine et Siwan n'avaient-elles plus de secrets l'une pour l'autre? Même là, le châle était synonyme de séparation.
« Tu dois mourir de faim !»
dit Moiraine en cessant de danser. Trop épuisée, elle avait manqué de perdre l'équilibre et Siwan n'était guère plus solide sur ses jambes.
« Et un plateau t'accueillera dans ta chambre !»
ajouta-t-elle, en désignant celui qui attendait encore qu'elle le rapporte aux cuisines. En une occasion si spéciale, elle avait eu droit à un traitement de faveur, mais il ne fallait quand même pas pousser.
« Je pourrais manger un aviron entier, mais il y a beaucoup mieux qu'un repas dans ma chambre. Ce matin, je me suis fait apporter 6 souris par une domestique.
Nous sommes presque des sœurs,
objecta Moiraine.
Il ne serait pas convenable de mettre des souris dans le lit d'une fille. De plus, ce serait vraiment méchant. Toutes les acceptées sont sorties aujourd'hui, et elles sont aussi fatiguées que nous.
Nous sommes presque des sœurs, exact.
Mais toute la différence est justement dans le presque.
Réfléchis, c'est notre dernière chance.
Quand nous porterons le châle, ce ne sera plus possible. De toute façon, Elaïda n'est pas allée en mission, que je sache. Des souris sont un châtiment bien léger pour ce qu'elle nous a fait.
Nous devons nous venger.
Moiraine en resta un moment perplexe. Sans Elaïda, elle n'aurait pas appris à tisser plus vite. Et cette lacune aurait bien pu lui coûter le châle. Cela dit, l'apparition de son père n'était sûrement pas le seul ajout d'Elaïda à l'épreuve. À de multiples occasions, ses faiblesses avaient été exploitées par quelqu'un qui les connaissait très bien. Elaïda avait bel et bien voulu la faire échouer.
D'accord. Mais pas avant que tu aies mangé, alors.